Mathieu Laurent pour le journal de la rédaction. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, MeToo en Corse, avec, après Bastia il y a 15 jours, Ajaccio ce soir et une marche contre les violences faites aux femmes. Jean Castex promet un nouveau pacte social. Les syndicats, toutes sensibilités confondues, répondent « wait and see » sur les retraites, précision de Marie Viennot. Le rapport de la Fédération nationale des pompiers sur la gestion de la crise sanitaire, sévère avec l'État, rapport contesté par la Fédération hospitalière de France, qui veut y voir un nouvel épisode de la guerre du 15 contre le 18. Dans ce journal, nous ferons le point sur la pandémie qui s'accélère en Iran. Et puis, commentaire global de l'infectiologue à l'OMS, Didier Pittet. Enfin, Black Lives Matter en Australie, mobilisation de la communauté aborigène à Sydney. Ce sera un reportage de Grégoire Pless. Rompre le silence et ne plus craindre de dénoncer ses agresseurs est infiniment compliqué, douloureux. Alors, appartenir à un collectif pour aider à se confier, à dominer la culpabilité et à combattre les archaïsmes. À l'heure où je vous parle, des manifestantes s'élancent dans les rues d'Ajaccio et sonnent l'alerte. Diane Berger, halte aux violences sexuelles et sexistes faites aux femmes.
Leur bataille a commencé sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Des jeunes Corses ont commencé à écrire sur Twitter l'expression « I was », c'est-à-dire « j'étais » en anglais, suivi de l'âge auquel elles ont subi un viol. Les victimes sont parfois très jeunes, 11 ans, 14 ans, et surtout, elles réalisent qu'elles sont nombreuses. Parmi elles, Lina, 18 ans, militante pour la première fois de sa vie.
Ça a surpris tout le monde et donc on a voulu faire vraiment des actions concrètes parce que en fait tout le monde a été très choqué par le nombre de témoignages qu'il y avait ici. Personne ne s'y attendait. On pensait tous que c'était des éléments isolés, etc. Et en fait, non.
Elles étaient 300 à leur première manifestation il y a 2 semaines à Bastia. Une surprise pour ces militantes qui ne s'y attendaient sincèrement pas, elles s'attendaient à moins. Mais c'était aussi une surprise pour beaucoup de Corses. Anaïs Mattei, 22 ans, est l'une des organisatrices.
Il y en a qui ont été d'une part très choqués parce qu'ils se disaient « mais c'est pas possible, ça n'existe pas chez nous » alors que ben, si, on le voit bien, on a reçu plus de 200 témoignages quand même, donc c'est énorme. On a quand même un dossier de plainte, on a déjà 12 plaintes dedans et bon, le chiffre va aller en augmentant. Hein. Après, il y en a beaucoup qui ont aussi ouvert les yeux. Ils nous ont dit « oui, on se rendait pas compte de tout ce qu'il y avait en Corse, c'est triste quoi, c'est triste ».
Malgré la vague féministe MeToo il y a 2 ans, il a fallu du temps pour les jeunes Corses pour libérer leurs paroles. C'est une affaire, entre autres, de mentalité, explique Laetitia Maroukou. Elle est conseillère municipale à Ajaccio et elle est aussi présidente de l'association Donner et Sourceller, en français, Femmes et Sœurs.
En Corse, oui, il y a aussi une question de valeur, c'est-à-dire les Corses quand même ont aussi des valeurs de famille, vous voyez, qui sont moins fortes sur le continent qu'en Corse. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, étant donné que la cellule familiale est toujours quand même préservée ici, ben ça déclenche aussi ces problématiques de « on ne veut pas dénoncer la personne qui a violé ».
La militante espère que les mentalités vont continuer de changer en Corse. En attendant, après la manifestation, les créatrices du mouvement I Was Corsica vont rencontrer le préfet pour demander plus de moyens contre les violences sexuelles.
Merci à vous, Diane Berger. 9 organisations syndicales de retraités s'adressent au nouveau Premier ministre et lui demandent, je cite, de penser à un quart de la population, non sans lui suggérer de créer un secrétariat d'État pour les personnes âgées. La composition du gouvernement devrait être connue demain, dans la journée. Il comprendra une 20aine de ministres et de ministres délégués. Aujourd'hui, Jean Castex a donné, dans une interview au journal du dimanche, les contours de ce qu'il nomme un nouveau pacte social. Pour autant, Marie Viennot, pas de vrai changement de cap. Jean Castex reprend les dossiers laissés pendant par son prédécesseur.
Dans ses réponses au JDD, le Premier ministre parle d'un nouvel agenda social, mais hormis la mention qu'il fait à la nouvelle donne sociale lancée par le président, dont on ne connaît pas réellement la teneur, Jean Castex reprend la totalité des sujets sociaux déjà sur la table. Ségur de la santé, dépendance, assurance chômage, retraite, plan de relance, rien en plus, rien en moins non plus, et donc toujours ce cap de la réforme des retraites maintenue. La CFE-CGC et la CGT y étaient déjà opposés cet hiver. Les deux syndicats ont donc réagi aujourd'hui aux propos du Premier ministre. Ils n'en veulent toujours pas. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, lors d'une intervention aux rencontres économiques d'Aix-en-Seine.
Si les priorités, c'est l'emploi, la lutte contre le chômage, l'industrie, parce que j'insiste sur l'industrie, on parle de relocalisation, à quoi cela sert-il de remettre sur le tapis quelque chose qui a profondément marqué notre pays par des grèves, par des mobilisations. C'est ça que souhaite le gouvernement. Soit l'acte 3 après un acte 2 dont on n'a pas vu la différence avec l'acte 1, c'est plus de dialogue social, soit c'est du conflit et j'ai raison tout seul, c'est-à-dire le président de la République a raison tout seul, et il se met à dos tout le monde. Parce que oui, moi aussi j'ai noté que même la CFDT qui est favorable à la réforme de la retraite dit c'est pas le moment.
Pas le moment, c'est aussi l'avis du MEDEF qui estime qu'il faut appuyer sur pause au sujet des retraites, la priorité étant pour le syndicat patronal la remise en route de l'outil de production. Avoir tous les partenaires sociaux contre lui, du MEDEF à la CGT, ce serait un début en fanfare pour le nouveau Premier ministre qui, dans le JDD, se dit porté au dialogue pour une réconciliation avec les corps intermédiaires et convaincu, je cite, que pour parvenir, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Quel sera le pas fait vers l'autre par son gouvernement? Cela sera-t-il sur les retraites ou sur un autre dossier social? En tout cas, Jean Castex, qui dit vouloir être jugé sur ses actes, le sera très vite, puisqu'il conclura le Ségur de la santé dès la fin de la semaine qui vient.
Emmanuel Macron envisage de prendre la parole lors de la fête nationale le 14 juillet. Le nouveau Premier ministre Jean Castex engagera quant à lui la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale le 17 juillet. Cinglant le rapport de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, l'organisation mettait la dernière main à un rapport sur la gestion de la crise sanitaire, de la pandémie, quand le texte a fuité. Cibler le ministère de la Santé, en faire le principal acteur, le gestionnaire de la lutte contre le virus, s'est avéré être une erreur majeure, selon Hugues de Rognoncourt, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
D'abord, c'est pas un problème de personne, c'est un problème d'organisation. On vous confiait une crise qui sera multi-service, qui sera multi-ministère, qui a des répercussions sur tout le territoire. Il faut avoir une vision globale. On a confié à un ministère seulement au début la gestion de crise, alors qu'on a le ministère de l'Intérieur qui est préparé pour ça. Quand on joue seul, quand on joue pas collectif, on voit que ça ne marche pas.
Vous avez proposé vos services pendant la crise et vous dites que vous, en gros, vous n'avez pas été entendu.
Oui, les sapeurs-pompiers, mais comme d'autres acteurs locaux. Les préfectures ont été aveugles très longtemps, hein, puisqu'on n'a pas eu d'informations. Et puis après, effectivement, les sapeurs-pompiers ont transporté à peu près 100 000 personnes atteintes du Covid, c'est-à-dire près de la moitié. Il y avait on nous a demandé de préparer des colonnes de renfort. Simplement, elles n'ont pas été utilisées. Et alors moi, il m'appartient pas de discuter le choix du médecin. Hein, et il n'y a pas de souci. Simplement, je dis juste par rapport à tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on a fait. Comme par hasard, on n'a pas du tout été sollicité, pas du tout été employé. Donc voilà, c'est tout, c'est un constat.
Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, enfonce le clou et estime que, je cite, « l'on n'a pas assez utilisé les vrais managers de crise que sont les préfets de département ». Fin de citation. Tout autre approche que celle de Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France.
J'ai vu ce rapport avec assez d'étonnement. Il faut dire les choses de manière concrète. C'est vrai qu'il y a depuis toujours une guerre entre les blancs et les rouges, entre le 15 et le 18, pour essayer de prendre la main sur ce qu'est l'appel d'urgence, quel que soit le numéro qu'on ait mis en place dans une situation d'hypercrise. Et néanmoins, il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites, donc laissons parler vraiment les chiffres. On voit qu'il n'y a pas, j'allais dire, de surmortalité pour d'autres types de pathologies, et il y a d'autres études qui sont menées a posteriori pour regarder justement si la prise en charge par notre système des patients Covid a laissé de côté d'autres types de pathologies. Je pense que les mots employés par les pompiers sont souvent très exagérés. Il y a des constats qui sont vrais sur la lourdeur administrative. Les commissions d'enquête en cours vont montrer qu'effectivement, il y a sans doute des voies d'amélioration, et tant mieux. Ces retours d'expérience sont faits aussi pour trouver des solutions plus pérennes. Mais de dire que des patients ont été évacués uniquement pour faire de la communication alors que des cliniques étaient vides à côté, enfin, c'est totalement faux. Il faut sortir de cette image.
Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France, des propos recueillis par nos confrères de France Info. La pandémie, elle, ne perd pas d'intensité, tout au contraire, elle est en expansion dans une grande partie de la planète. L'Inde a enregistré ces dernières 24 heures 25 000 nouveaux cas, la plus forte hausse quotidienne dans le pays depuis le mois de janvier. Le gouvernement craint qu'un demi-million de personnes ne soient contaminées d'ici la fin du mois de juillet. New Delhi a reconverti un centre spirituel en un gigantesque centre d'isolement et un hôpital de 10 000 lits. Aucune amélioration aux États-Unis. De hauts fonctionnaires de l'administration Trump reconnaissent qu'ils ne contrôlent pas la situation. Flambée de cas au Brésil et en Iran, pays le plus durement touché par la pandémie au Proche et Moyen-Orient, l'épidémie gagne du terrain. Christian Chenot.
Au sommet de la République islamique, on montre l'exemple, à commencer par le guide suprême Ali Khamenei qui porte désormais un masque lors de ses apparitions publiques, ou encore du président Hassan Rouhani qui se veut lui aussi exemplaire. Face à l'épidémie qui reprend de plus belle, les autorités iraniennes renforcent les mesures de distanciation sociale. À partir d'aujourd'hui, le masque est obligatoire dans les lieux couverts comme les centres commerciaux ou dans l'administration. Le ministère de la Santé a lancé une campagne d'information à la télévision intitulée « Je porte un masque » pour inciter les Iraniens à respecter les protocoles sanitaires. Les gens sont un peu imprudents, reconnaît un homme d'affaires joint par téléphone à Téhéran qui ajoute que le gouvernement a toutes les peines du monde à faire respecter le dispositif de protection parce que l'économie est à genoux et que les gens doivent travailler coûte que coûte. En dépit des sanctions économiques occidentales, l'Iran n'a pourtant jamais manqué de masques ou de gel hydroalcoolique. Tout a été produit localement à des prix abordables. Ce matin, j'ai acheté 50 masques pour l'équivalent de 6 euros, rapporte notre homme d'affaires qui a constaté une forte augmentation des ventes dans les magasins. Le pic de mortalité lié au Covid-19 n'y est sans doute pas étranger.
Et en Europe, où en serions-nous avec le Covid-19 ? En France, les 3 hôpitaux de Guyane ont déclenché hier leur plan blanc pour faire face à l'épidémie du coronavirus qui s'accélère. La Galice, communauté autonome du nord-ouest de l'Espagne, reconfine 70 000 personnes. Même mesure avant-hier en Catalogne, pour ne parler que de l'Espagne. Et cette deuxième vague qui hante les esprits. Eh bien, Amélie Perrier a posé la question à Didier Pittet, épidémiologiste et infectiologue à l'Organisation mondiale de la santé.
On est en fait dans la fin de la première vague. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le confinement a été efficace, et il l'a été au fond dans tous les pays dans lesquels il a été bien appliqué, il a été très efficace et maintenant nous devons d'identifier immédiatement tous les nouveaux foyers épidémiques et évidemment de les contrôler avec les mesures habituelles. Lorsque ces mesures habituelles ou lorsque on ne comprend pas les foyers et les modes de transmission, le mode est toujours le même, mais la chaîne de transmission, lorsqu'on n'arrive pas à la comprendre, on est obligé d'avoir des mesures plus importantes. On l'a vu en Allemagne autour de cet abattoir où là on a dû finalement bloquer une région qui couvrait environ 600 000 personnes. Ici en Espagne, on est dans une région qui fera 200 000 personnes environ et ça prouve simplement que les mesures de santé publique sont mises en place. On l'espère, elles seront efficaces si la population les comprend bien, si elles sont bien appliquées, et c'est attendu. On ne peut pas parler encore de deuxième vague, puisque, en fait, pour parler de deuxième vague, il faut avoir résolu pratiquement la première vague, c'est-à-dire n'avoir plus qu'un nombre de cas extrêmement faible. Maintenant, ce qui est une partie extrêmement importante du contrôle, eh bien, il y a cette stratégie qui consiste à se faire tester de manière à prouver que lorsque vous avez les moindres symptômes, vous avez ou non la maladie due à Covid. Et quand c'est le cas, évidemment, vous serez isolé et vos contacts seront testés. Et c'est simplement le fait aujourd'hui de cette activité de santé publique qui est au fond la clé de la maîtrise de la situation. C'est le fait de ce test à large échelle qui fait qu'on diagnostique des nouveaux cas et donc parfois des foyers qu'on a un tout petit peu de peine à contrôler.
Didier Pittet avec Amélie Perrier. Le navire humanitaire Ocean Viking vient de recevoir l'autorisation de l'Italie pour débarquer les 180 miraculés qu'il a secourus en Méditerranée, en Sicile. Le navire s'était déclaré en état d'urgence en raison de tensions à bord. Le mouvement Black Lives Matter prend de l'ampleur en Australie où la dénonciation des violences policières trouve un très fort écho au sein de la communauté aborigène. Une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes vient tout juste de se terminer à Sydney. Sydney, Grégory Pless.
Une cérémonie traditionnelle aborigène était de rigueur aujourd'hui pour cette troisième manifestation Black Lives Matter à Sydney. Le mot d'ordre du jour dénonçait la mort de centaines d'aborigènes dans des prisons australiennes. De nombreux membres de la famille de ces victimes étaient présentes. Elles ont eu droit à un rituel purificateur.
Tous ceux ici qui ont perdu un membre de leur famille sous les coups de la police, venez à moi pour vous faire embaumer et vous débarrasser des démons qui nous entourent et nous oppressent.
La femme qu'on vient d'entendre, c'est Lizzie Jarrett. C'est l'une des organisatrices de ce rassemblement. L'un de ses propres cousins est mort en prison. Et ce qu'elle veut faire savoir, c'est que la violence du système judiciaire et carcéral à l'égard des Noirs n'est pas seulement un problème américain.
Depuis 1991, 437 aborigènes sont morts en détention. Cette journée est très importante car l'Australie et le monde doivent comprendre qu'ici aussi, les vies noires comptent.
Une nouvelle manifestation est prévue à la fin du mois pour dénoncer les brutalités policières à l'égard des aborigènes. Ils ne représentent que 3% de la population australienne, mais 30% de la population carcérale.
Quelques mots de météo pour refermer cette édition. Le temps de demain, nuageux en début de matinée pour faire peu à peu place au soleil dans l'après-midi. Les nuages seront très nombreux et denses sur le sud-ouest, le massif central, le Jura et Rhône-Alpes.